Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection des textes tirés des médias suivants, Pivot et Urbania. Au programme, le mauvais état des logements rend malade les enfants des Premières Nations. Stroma et si son enfer sauvait des vies. Et chronique d'un deuil béninois. Nourriture des vivants, mémoire des morts. Bonne écoute.
Le mauvais état des logements rend malades les enfants des Premières Nations, un texte d'Alexis Ross, paru le 3 février 2022 dans le magazine Pivot. La santé d'enfants autochtones est mise en danger par des conditions de logement déplorables, elles-mêmes causées par l'indifférence des gouvernements, montre une nouvelle étude. Le mauvais état des logements est associé à d'importants problèmes de santé respiratoire chez les jeunes enfants de communautés autochtones isolées. Les habitations sont trop petites et trop rares, et donc surpeuplées. Les bâtiments sont mal entretenus et mal ventilés. On y note ainsi une forte présence de moisissures et d'autres toxines. Pendant ce temps, les enfants en bas âge sont anormalement nombreux à connaître des infections ou des difficultés respiratoires. Ce sont les constats d'une étude menée dans une centaine de résidences de 4 communautés de la nation Nishnaubé-Aski. Ces communautés sont situées loin de centres urbains, dans la région de Sioux Lookout, dans le nord-ouest de l'Ontario. L'étude dirigée par le Dr. Thomas Covesy du Children's Hospital of Eastern Ontario a été réalisée en étroite collaboration avec la Régie de la santé des Premières Nations de Sioux Lookout, RSPNSL. Elle est publiée dans le Journal de l'Association médicale canadienne. Selon le Dr. Covesy, les résultats de l'étude pourraient probablement être généralisés à d'autres communautés du nord de l'Ontario et des provinces voisines, là où le climat est comparable. Ça nous donne de l'information sur la réalité d'une bonne partie du Canada, avance-t-il en entrevue. Des logements inadaptés et en mauvais état. Les bâtiments inspectés ne satisfaisaient pas aux normes minimales. La majorité des logements visités étaient surpeuplés, avec plus d'une personne par pièce disponible. On voit beaucoup de personnes qui restent dans des maisons qui ne sont pas assez grandes, témoigne Patrick Keating, coordonnateur de la clinique de réhabilitation pour enfants du RSPNSL. Les communautés auprès desquelles il travaille ont des manques évidents de logements, indique-t-il. Plus de 4 habitations sur 5, 85 % n'avaient pas de ventilation contrôlée. Les mesures de CO2 indiquaient une mauvaise circulation de l'air dans plus de la moitié, 56 % des résidences. Plusieurs habitations étaient mal situées, exposées à des inondations ou à des infiltrations d'eau. Près de la moitié, 44 % montraient d'ailleurs des signes de pénétration d'eau dans les murs extérieurs. Une proportion similaire, 51 % avait des fenêtres endommagées. Moisissures, toxines et maladies respiratoires. Les chercheurs-chercheuses ont trouvé des niveaux élevés de moisissures dans plusieurs résidences. La présence de moisissures était associée à des infections respiratoires plus fréquentes chez les jeunes enfants y étant exposés. De manière générale, le quart des enfants, 25 % âgés entre 1 et 4 ans, avaient dû subir une évacuation médicale pour une maladie respiratoire. Dans les Premières Nations de Sioux Lookout, les hospitalisations de bébés pour des infections respiratoires sont nettement plus fréquentes que dans la population générale. 44 pour 1000 contre 25 pour 1000. L'étude a aussi relevé dans les logements une présence extraordinairement élevée d'endotoxines, un résidu de certaines bactéries, attribuable notamment à l'entreposage et à l'utilisation de bois de chauffage. La forte présence d'endotoxines était associée à des cas de respiration sifflante lors de rhumes chez les jeunes enfants. Au total, c'est plus du tiers, 39 % des enfants, chez qui une telle respiration sifflante a été constatée. L'indifférence et le sous-financement dénoncés. Les faits constatés ne sont pas nouveaux, mais l'étude permettra d'appuyer les demandes des communautés auprès des autorités, dont les exigences sont souvent limitatives, explique Patrick Keating. Ça montre des choses qu'on constatait déjà, mais ça peut ouvrir les yeux de ceux qui ne nous croyaient pas, affirme-t-il. En matière de logement, notamment, le gouvernement fédéral sous-finance ses communautés depuis toujours, déplore le docteur Covesi. Les auteurs de l'étude indiquent qu'il faut davantage de logements et que ceux-ci doivent être adaptés aux conditions géographiques et aux réalités culturelles des communautés. Ils et elles rappellent aussi que le développement social et économique est essentiel, puisqu'il donne aux communautés les moyens de mieux entretenir leurs infrastructures. Ils et elles insistent enfin sur l'importance de solutions dirigées et régies par les Premières Nations. Le mauvais état des logements rend malades les enfants des Premières Nations, un texte d'Alexis Ross, paru le 3 février 2022 dans le magazine Pivot.
Stromae, et si son enfer sauvait des vies. Un texte de Daisy Lecor, paru le 11 janvier 2022 dans le magazine Urbania. Un soir, la tête en vrac et l'esprit patraque, je scrolle machinalement sur les réseaux sociaux quand Stromae apparaît dans mon fil d'actualité. Je n'aperçois d'abord que sa tête en petite vignette. À première vue, j'ai l'impression qu'il a sorti un nouveau clip avec pour décor un plateau de journal télévisé. Why not? Et puis je clique, et puis je comprends. Il a osé. Quoi? Ce qu'on croyait impossible pour les uns, ce qu'on considère comme inadmissible pour les autres. Oui, ce 9 janvier 2022, sur TF1, en plein journal télévisé, Stromae s'est mis à poil. Pire que ça, il nous a mis le nez dans ses démons intérieurs. Ça pue la mort. Il ne nous a pas demandé notre avis. Il nous a pris de court en répondant en chanson à une simple question d'Anne-Claire Coudray sur la manière dont il a géré sa dépression. « Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ?» Et là, la magie opère. La mise en scène est parfaite. Il a lâché le morceau. Stromae, comme des milliers, millions, milliards de personnes à travers le monde, avec ou sans pandémie, a parfois eu des pensées suicidaires. Il le chante haut et fort en fin de JT. Il avoue que ses pensées lui ont fait vivre un enfer. « J'ai parfois eu des idées suicidaires, et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. » Mais au pays des Lumières, on ne révolutionne pas les mœurs comme ça. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes ni le journalisme avec la communication. Et puis quoi encore? Pfff, soupir, fatigue. Nous ne sommes pas devant les parapluies de Cherbourg. nous sommes censés assister aux 20 heures de TF1, présentées par une consoeur dotée d'une carte de presse. Ellipse. Soudain, tout est embrouillé. Il n'existe plus de distinction entre l'espace d'information, soumis à cette vieille chose tenace qu'on nomme la déontologie journalistique, et l'espace du clip. Plus de différence entre l'éthique pointilleuse et le déroulement du spectacle. Plus de séparation entre le regard nécessairement distancié et les impératifs du show business, peut-on lire sur Lobs. Sur Libération, même refrain fatigant. Pour ce qui concerne la rédaction du journal du soir de TF1, en revanche, on s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à passer cette ligne rouge et à accepter le détournement de son sommaire au profit d'une opération marketing instrumentalisant ouvertement l'émission, altérant par là jusqu'à l'essence éditoriale de son programme et le sens profond de ses images. Bien entendu, les manigances promotionnelles dans les programmes d'information ne sont pas nouvelles. Depuis l'expansion irrésistible de l'infotainment jusqu'au contenu publi-rédactionnel à peine caché de sites comme Combini, le public est soumis en permanence à des formats éditoriaux toujours plus flous, qui n'ont que très indirectement à voir avec du journalisme. Du côté de la rédaction d'Urbania, à Montréal, les avis sont partagés entre malaise et coup de génie. Les cœurs balancent. Notre collègue Laïma estime quant à elle que c'est du grand Stromae. Pour qu'un stunt soit réussi, il faut justement bousculer les codes. Donc ça ne me choque pas du tout qu'ils prennent d'assaut une institution comme le 20 heures, dit-elle. Et la réaction des médias français ne m'étonne pas non plus. Dès qu'on s'attaque à une institution, ça dérange. Plus qu'au Québec, en tout cas. De mon côté, n'en déplaise à ma sacro-sainte déontologie journalistique, une seule pensée m'obsède. Je suis peut-être naïve, trop humaine ou hypersensible, qui sait. Et si le stunt, comme disent mes collègues québécois, de Stromae venait de sauver des vies? Ce n'est quand même pas n'importe quel message que le maestro a envoyé ce soir-là. On parle du suicide, du vrai, pas du suicide journalistique évoqué dans le torchon cité plus haut. Ce titre, en plein journal télévisé, c'est un cri du cœur et une main tendue à celles et ceux qui, peut-être jusqu'ici, se croyaient seuls au monde avec leurs idées noires. Et quoi de mieux que le JT pour mettre les pieds dans le plat et envoyer un signal à plus de 7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices? Où est le mal? Je n'y vois qu'un magistral et vital coup de promo qui sert une bonne cause. Pour une fois. Ironie du sort, à l'heure où j'écris ces lignes, l'infolettre de Libération vient d'arriver dans ma boîte courriel. En objet et en une, geste suicidaire, hausse alarmante chez les adolescentes. No comment. Stromae connaît l'impact qu'il peut avoir sur des personnes qui s'identifieraient à son discours, à ses paroles. Tout comme ces personnalités qui, un beau jour, décident d'assumer ouvertement leur homosexualité ou leur allergie au gluten. Aider son prochain en lui disant qu'on lui ressemble, c'est salvateur, ça garde en vie. Je ne suis pas sûr que TF1 aurait donné son accord s'il avait été question de faire le même coup avec Philippe Catherine pour son titre « Je vous emmerde » ou « La banane », entre autres titres existentiels. Mais je me trompe peut-être. Dans l'enfer de Stromae, il est bien question d'idées suicidaires et de tous ces démons dont l'humain ne sait que faire, mais qui nous hantent au quotidien. Impossible d'écouter les paroles sans penser à ses propres démons ou à ceux de ses proches. La dépression, la pulsion de mort font partie de la vie. C'est un fait. Il est temps d'en parler et de s'entraider quand c'est encore possible. Devant ce JT, on s'est tous et toutes approchés et on a regardé. Stromae chante que ses pensées si ou si d'air il n'en est pas fier. Et bien sûr, il est honnête. Sauf que, par le miracle de sa vérité et de son immense talent, il fait que nous n'aurons plus jamais honte des nôtres, écrit Sophie Fontanelle sur rue 89. Elle a raison. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête, comme le chante le maestro. Chapeau, l'artiste. Si vous avez besoin d'aide ou si vous vous inquiétez pour l'un ou l'une de vos proches, contactez le 1-866-APPELLE, APPELLE, partout au Québec, ou visitez le suicide.ca. Ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'était Stromae et Si son enfer sauvait des vies, un texte de Daisy Lecor paru le 11 janvier 2022 dans le magazine Urbania. Chronique d'un deuil béninois, nourriture des vivants, mémoire des morts. Un texte d'Adéola Desnoyers paru le 16 mars 2021 dans le magazine Urbania. À chaque fois que l'avion atterrit au Bénin, mon estomac se réveille. Dans la moiteur de l'aéroport de Cotonou, je m'impatiente, vaguement distraite par le tapis roulant qui fait défiler les valises du vol Air France en provenance de Roissy-Charles de Gaulle. Il est 22 heures passées. Ma faim n'a pas été apaisée par la salade de lentilles détrempées et l'insipide barquette de fusillis à la tomate que j'ai engloutie dans les airs 3 heures plus tôt. Dehors, sur le terre-plein saturé de famille guettant la sortie imminente de leurs proches, mon cousin m'intercepte et me guide hors de la foule. À chaque pas qui me rapproche de la voiture, je salive un peu plus, songeant à ma délivrance imminente des casseroles et des cocottes fumantes, débordante de ragoût et de barbac, un festin disposé sur la grande table en bois verni du salon de ma grand-mère, comme à chaque fois. Je sais que ma mère, mon père, mes oncles, mes tantes et mes cousins m'attendent pour envoyer le premier coup de fourchette, sauf elle. Grand-mère est morte et à la tablée, sa chaise restera vide. Entre la marmite de riz et le plat de poulet grillé, ma Madeleine de Proust est aux abonnés absents. Le abobo, ce ragoût à base d'haricots, d'ail, d'oignons, de piment et d'huile rouge que ma grand-mère faisait mijoter invariablement le soir de mon arrivée, a disparu du menu. Sur le mur de la salle à manger, son portrait, une belle photo des années 80 au charme suranné, domine l'assemblée. Dans un coin, la flamme d'un cierge vacille, pareille à l'humeur des convives, partagée entre l'euphorie des retrouvailles et l'abattement du deuil. Malgré tout, au milieu du brouhaha, les assiettes finissent par se remplir et les couverts décortiquent. Il est tard et tout le monde sait que la semaine sera longue. Tonton, tata et tontine. Dans la cour de la maison, des rangées de chaises ont été installées à l'ombre du manguier. Il fait déjà 34 degrés, mais la météo caniculaire n'a pas découragé les premières personnes venues présenter leurs condoléances. Bientôt, on manque de place. Proches et moins proches s'embrassent, s'étreignent et se consolent. Et sous l'écrasant soleil de Cotonou, les vieilles tantes venues de Ouida somnolent ou s'éventent en attendant la première soirée de veillée. Ceux qui le peuvent ont apporté de quoi participer aux dépenses des obsèques. Discrètement, certains remettent des enveloppes garnies de plusieurs milliers de francs CFA, quand d'autres préfèrent remplir le coffre de leur voiture de packs d'eau, de caisses de Coca-Cola ou de Fanta, qui seront ingurgitées tout au long de la semaine. Parfois, ce sont d'énormes faitous chargés d'akassa, une pâte populaire à base de maïs fermenté, ou de brochettes de porc qu'un ami de la famille offre pour nourrir la foule présente sur place de jour comme de nuit. Chacun sait que le moment venu, ce système de tontine leur sera également utile pour enterrer un des leurs. Au Bénin, le deuil est l'affaire de tous. Il s'expérimente comme une entreprise collective et sur plusieurs jours, avec la certitude inébranlable que la mort n'est jamais une destruction totale ou définitive. Chez les Yoruba, l'ethnie de ma famille, on dit souvent que les morts ne sont jamais vraiment morts et que la frontière est poreuse entre le monde des vivants et celui de ceux que l'on a perdus. Les ancêtres s'apparentent à des divinités dont le culte serait plus important que celui de véritables dieux. Si l'homme quitte son enveloppe de chair et de sang, c'est parce qu'il est finalement essentiellement fait d'esprit. Alors l'événement, aussi douloureux soit-il, prend souvent des airs de fête, le temps de célébrer cet inévitable voyage d'un royaume à l'autre. Paradoxalement, le décès de ma grand-mère devient l'un des temps forts de son existence, où se transmet l'identité singulière de son clan face au reste de la société. Voisins, amis, cousins éloignés, notables et anciennes acquaintances feront obligatoirement une apparition dans la demeure de la défunte, souvent par affection, parfois par pur respect des traditions. Dans cette même volonté de suivre les règles, la famille directe saura rendre ses marques d'attention, le plus fréquemment par le biais de l'alimentation. Grand-mère est partie, il nous reste encore un peu d'appétit. Dans l'arrière-cuisine, Antoinette, Léocadie et Rachel s'affairent au milieu des marmites brûlantes et des glacières pleines. La nuit est tombée d'un coup sur Cotonou sans rafraîchir l'air pollué de la métropole. Les trois employés de maison attendent le coup d'envoi de ma tante pour réapprovisionner les hôtes en eau fraîche, bière et soda. La veillée religieuse a débuté depuis quelques minutes et dans les rangées de chaises, les chapelets ont remplacé les éventails. Au micro, le prêtre récite un « Je vous salue Marie » que l'assemblée reprend en chœur à voix basse. 2 heures passent à égrener les prières et les bénédicités dans une atmosphère lourde de mélancolie et de contrition. Parfois, quelqu'un se lève pour répondre à un appel ou quitter discrètement les lieux, attendu ailleurs. Mais doucement, l'agréable odeur du riz qui cuit vient chatouiller nos narines, nous extirpant progressivement de l'abattement général et décrétant un temps de pause. Comme à la fin d'un concert, le silence s'estompe, laissant la place à de timides discussions et au grincement des chaises sur le béton. Dans le salon, la chaleur est insoutenable et les plats cuisinés emplissent l'air de puissants effluves humides. Ces parfums d'enfance et de vacances, mélange de bananes plantains frites et de sauce au piment vert, me donnent le sentiment d'être exactement au bon endroit. Sur le mur, toujours, ma grand-mère nous observe du coin de l'œil, comme pour vérifier que nos assiettes sont suffisamment remplies. Ces repas, souvent épisodes de socialisation extrême et d'acrobatie diplomatique, restent éprouvants pour ceux qui portent le deuil. Et les occasions de se retrouver entre soi sont rares durant la semaine d'obsèques, pour ne pas dire pratiquement inexistants. Souvent, j'ai surpris ma mère ou l'un de mes oncles s'échapper discrètement à l'étage pour profiter d'une précieuse minute de solitude. Quelquefois, nous avons mangé dans l'intimité de nos chambres pour éviter de devoir faire bonne figure devant de lointaines connaissances. Assis sur le bord du lit, la casserole à nos pieds et l'assiette sur nos genoux, nous nous sommes amusés de l'absurdité de la scène, en n'oubliant pas de saucer le fond du plat. Mais le partage de la table crée la communauté. Elle se développe grâce à une assiette tendue, à l'instant où l'on invite l'autre à prendre part à son chagrin. On y trouve presque toujours la convivialité nécessaire pour surmonter la douleur sourde de la perte d'une mère, d'un frère ou d'un ami. La faim, F-I-N, et la faim, F-A-I-M. Sur la route qui mène à l'église, de petits nuages de poussière se lèvent au passage des 4x4 qui traversent Cotonou. Dans le ciel, le sable se mêle au brouillard d'Harmattan et retombe sur le corbillard qui ouvre le cortège. En soirée, il n'y aura pas de cérémonie. Après la messe et le cimetière, nous mangeons entre nous. Autour de la table, l'appétit manque et les estomacs sont serrés. Les assiettes encore remplies d'ignames et de légumes sont rapidement débarrassées avant d'aller s'allonger. Dans la cour, les piles de chaises entassées dans un coin et les quelques verres abandonnés au sol témoignent de l'agitation des derniers jours. Ici, nous avons prié, chanté, mangé et dansé. Un dernier événement marquera pour la communauté la fin de la semaine de deuil. Pour fêter la sortie de la douleur et de l'épreuve, les endeuillés se doivent de rendre leurs bienfaits à ceux qui les ont consolés et réconfortés par leur présence, leur prière ou leur cuisine en les invitant encore une fois à partager un repas. En pensant garantir une vie aux défunts, les familles organisent parfois pompeusement les funérailles de leurs proches, au risque de s'endetter irrémédiablement. Mais la société béninoise considère que les âmes ont besoin de ces rites funéraires coûteux pour mieux se reposer. Alors, à quelques mètres de la maison familiale, une salle des fêtes a été louée pour l'occasion. Sur la pelouse parfaitement tondue, une petite scène a été montée la veille et autour, des tables de réception ont été dressées. Ici, la mort est dotée du même arsenal festif que les mariages ou les baptêmes. Sous les tentes blanches, les serveurs en chemise installent les convives, servent le champagne et déposent les assiettes de gamba grillées devant chaque invité. Derrière la scène, quelques caisses de l'alcool local, le sodabi, permettront aux musiciens de tenir toute la journée, voire une partie de la nuit. Ce soir, nous fêtons encore grand-mère. Demain, nous ferons les comptes. Chronique d'un deuil béninois. Nourriture des vivants, mémoire des morts. Un texte d'Adéola Desnoyers, paru le 16 mars 2021 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.